France Culture.
La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, sait-on comment le pouvoir masculin s'est historiquement construit ? Qu'est-il possible de savoir scientifiquement à propos de la préhistoire ? Par exemple, de déterminer précisément comment les femmes ont changé au fil du temps, dans leur apparence physique, dans leur rôle et leur statut au sein de leur groupe social, dans leur relation aux hommes ? Y a-t-il eu des phases de matriarcat ? Comment s'effectuait le choix des partenaires et comment se constituaient les alliances entre individus? On se doute que ce qu'on appelle la domination masculine n'a pas surgi d'un seul coup, un lundi de mai ou un mardi de juin par une belle matinée ensoleillée. Mais alors, comment s'est-elle installée? Quelle est la généalogie, sans doute longue, des processus qui l'ont mise en place? Pour répondre à ces questions délicates, j'ai le plaisir de recevoir Claudine Cohen. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes historienne et philosophe des sciences, directrice d'études à l'EHESS et à l'EPHE. Oui. C'est quoi l'EPHE ?
École pratique des hautes études.
Voilà. Et vous venez de publier un livre qui tente de répondre aux questions que j'ai posées. Il s'intitule « Aux origines de la domination masculine ». Il vient de paraître aux éditions Passé Composé. J'ai une première question, Claudine Cohen. Pourquoi le pluriel ? Aux origines. Ça laisse entendre qu'il y en aurait plusieurs ou bien que les réponses seraient plutôt floues, vagues.
Non, les réponses sont multiples, comme vous l'avez dit. Et il y a, au cours du temps, un certain nombre de processus qui jouent un rôle dans cette domination masculine sur les femmes. Ils sont variables. Alors, il y a des invariants, certes, mais il y a aussi des choses qui dépendent des circonstances, des modes de subsistance, des relations qui s'installent dans la société elle-même, à travers la constitution d'autorité, de pouvoir, etc. Donc, effectivement, des origines multiples, et c'est tout cela que j'explore dans tout le courant de ce livre.
Alors, j'ai une autre question à propos du titre, c'est justement le mot « origine », parce que dans le langage courant, le mot « origine » signifie « conclusion ». C'est-à-dire, oui, raconter l'origine d'une chose, c'est raconter une histoire dans laquelle cette chose n'est pas présente, mais qui arrive à la fin. C'est-à-dire, on, oui, explique la genèse d'une chose en racontant, absolument, l'histoire d'avant.
Oui, et alors je ne crois pas que la domination masculine est finie aujourd'hui. Hein, je crois qu'elle se poursuit.
Non, mais est-ce qu'on est capable de dire quand elle a commencé, du
mais
coup
on peut s'interroger sur ce point. Alors c'est un point très difficile, hein, c'est une question très difficile. Elle a été soulevée par Simone de Beauvoir, elle a été soulevée par des préhistoriens et des préhistoriennes qui se sont attachés à ces questions, mais toujours comme une question un peu ouverte. Et j'ai voulu, moi, vraiment entrer dedans et voir tout ce qu'on pouvait trouver, toutes les réponses qu'on pouvait essayer de dégager de cette question. Alors, il est évident que ce mot d'origine, il est aussi teinté de mythologie. Hein. Quand on parle d'origine, bah, c'est la création, c'est Dieu, c'est le fiat, hein, c'est l'origine ponctuelle par laquelle quelque chose qui n'existait pas tout d'un coup.
L'instant zéro.
Voilà, l'instant zéro. Alors, effectivement, cette notion-là qui nous habite est aussi à critiquer. Il faut aussi dire que l'origine, c'est pas Dieu, hein, c'est pas la création divine, ça l'a été pendant longtemps. Hein. Vous savez que dans la Bible, il y a des textes qui expliquent tes désirs te porteront vers ton mari et il te dominera. Hein, on lit ça dans la Bible. Et il y a beaucoup de textes religieux qui donnent à Dieu cette responsabilité d'avoir créé l'homme comme ayant du pouvoir sur les femmes. Alors, il y a aussi d'autres instances, en quelque sorte, qui sont invoquées pour légitimer cette origine, ce pouvoir, et en particulier la nature. Hein. Et je pourfends beaucoup dans mon livre cette notion de nature qui a longtemps été, disons, comprise comme la cause de cette domination et d'une domination qu'on ne pouvait pas enfreindre et qu'on ne pouvait pas transformer. Si c'est la nature, c'est comme Dieu.
On va revenir, Colin Conner, à toutes les hypothèses que vous,
oui, oui,
évoquez dans votre livre, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque quand on est historienne comme vous, ou préhistorienne, je ne sais pas si ça se dit, mais en tout cas, de céder à ce que Bergson appelait le mouvement rétrograde du vrai. C'est-à-dire que quand on a l'impression d'avoir trouvé quelque chose de vrai dans le présent,
oui,
de le rétroprojeter dans le passé, comme s'il avait toujours été vrai, alors qu'il relève d'une construction.
Absolument. Je pense que ça, c'est une chose sur laquelle j'ai beaucoup travaillé, justement parce que je travaille sur ces sciences dites de l'origine depuis très longtemps et sur toutes les mythologies qu'elles produisent et tout l'imaginaire qu'elles produisent. Et il est clair que nos questionnements sur la préhistoire sont d'abord induits par le présent. Hein. C'est parce que nous avons à comprendre ce qui se passe dans nos sociétés que nous nous interrogeons sur la manière dont les relations entre les hommes et les femmes se sont élaborées dans le passé. Donc il y a ça, mais il y a aussi que les sciences de la préhistoire sont des disciplines qui ont élaboré leur mode de preuve. Ce sont des disciplines très difficiles, parce qu'elles ont affaire à un matériel extrêmement limité, très dispersé, très fragmentaire. Hein, c'est des petits morceaux.
Beaucoup de trous dans la raquette. Pardon. Beaucoup de trous dans la raquette.
Absolument, énormément. Vous avez des petits bouts d'os, vous avez des petits bouts de cailloux, et puis vous devez avec ça reconstruire des mondes. Hein. J'ai écrit un livre qui s'intitule « La méthode de Zadig », c'est la méthode des traces, hein. On part de traces, y compris les traces d'ADN d'ailleurs, hein. Non seulement les traces, les fragments, les traces de pas, enfin toutes ces choses qu'il faut l'ordinaire du préhistorien et du paléontologue. Et avec ça, il faut arriver à reconstruire un récit, à comprendre la manière dont les choses se sont passées. Et c'est extrêmement délicat. Mais c'est un métier. Ce sont des gens qui s'attachent à cela à travers le terrain, à travers la recherche très fine d'objets qui peuvent témoigner de la vie humaine dans ces périodes très très lointaines. Et puis avec un certain nombre de concepts, hein, des concepts qui sont tirés de la théorie de l'évolution ou qui sont tirés d'une réflexion sur le devenir des cultures humaines. Hein. Et puis, donc, on a, à partir de là, tout un champ. Il y a aussi, par exemple, des techniques très modernes, très neuves, comme la paléogénétique, hein, qui nous donne des éléments. Alors, je ne dis pas que c'est des réponses absolues à ce genre de questions, mais elle donne des éléments beaucoup plus fins sur l'identification du matériel et son interprétation, et ses possibilités d'interprétation, que ce qu'on avait eu jusque-là, jusqu'il y a pas 50 ans. Hein. Il y a beaucoup plus de choses aujourd'hui à se mettre sous la dent quand on est un paléontologue et un préhistorien.
Bah, sous la dent, justement. Vous parlez de la Bible, hein, qui attribue la faute et la chute entièrement à la femme. Donc ça, c'est le mythe, disons, religieux.
Oui.
Bon, il ne tient plus aux yeux des préhistoriens, évidemment. Mais vous parlez aussi d'un mythe plus laïque que vous avez cité. L'origine de la domination masculine proviendrait de la nature elle-même.
Oui.
Alors pourquoi est-ce que ça ne tient pas, ça ?
Ben, la nature, ça a été bien travaillé par certains historiens des idées du XVIIIe siècle en particulier. La nature, c'est une notion qui s'est finalement substituée à la notion de Dieu. La nature, c'est tout ce qui est. Et tout ce qui est bien. Hein, Leibniz disait, voilà, tout est pour le mieux, etc. Donc, tout ce qui est bien. Donc, la domination masculine, elle est naturelle. Elle est inscrite dans la nature, dans les lois de la nature. Et il n'y a rien à faire. C'est comme ça. Et ce sera toujours comme ça. Et il y a des gens qui, encore aujourd'hui, défendent ce genre de position. Il y a des gens qui vous expliquent que les comportements masculins et féminins sont génétiquement déterminés. Hein, que les hommes doivent disperser leurs spermatozoïdes le plus qu'ils peuvent. Chaque individu doit se reproduire le plus qu'il peut. Les hommes ont beaucoup, beaucoup de gamètes, hein, et donc ils peuvent se reproduire énormément en ayant plusieurs partenaires, ayant recours à la violence. Hein, et puis, avec ça, donc, ils gagnent le jeu biologique de la reproduction. Quant aux femmes, eh bien, elles ont peu d'ovules, elles ont des ovules, mais en nombre beaucoup plus limité, et puis un à la fois, et elles doivent protéger leur ovule, protéger l'enfant en gestation, et ensuite protéger l'enfant qui naît. Et donc, il y a une espèce de déséquilibre naturel, disent les sociobiologistes, qui est inscrit génétiquement, et qui fait que les hommes sont mobiles, sont actifs, vont où ils veulent, et les femmes sont sédentaires, ne bougent pas et attendent d'avoir un mari plus vieux qu'elles, qui les protège, etc.
Faut pas parler de mari pour la préhistoire.
Oui, bon, enfin, je dis le mariage. Vous savez, il y a des tas de livres qui ont été écrits dans les années au tournant du XXe siècle qui s'intitulaient l'histoire du mariage. Westermarck, tous ces gens-là. Et effectivement, c'était l'histoire des relations entre les hommes et les femmes à travers l'histoire jusqu'au présent.
Alors, si on regarde le paléolithique, c'était avant 6000 ans avant Jésus-Christ, la période des chasseurs-cueilleurs. Vous dites qu'il y avait une relative égalité des sexes. Les femmes avaient une stature robuste, physiquement. Leurs sépultures étaient les mêmes que celles des hommes. Mm-hmm. Donc il n'y a pas de domination masculine au sens qu'on donne à cette expression aujourd'hui. Mm-hmm. Il y avait un relatif équilibre. Et oui. Comment est-ce qu'on peut le savoir? Quels sont les indices qui le démontrent?
Alors, le paléolithique, c'est quand même 12 000 hein, avant le présent. Hein.
Plutôt que ce que j'ai dit.
Oui. Il y a des endroits où c'est plus tardif, mais disons qu'on date un petit peu comme ça les choses. Alors effectivement, ce qu'on sait du paléolithique et de relations entre les hommes et les femmes au paléolithique, évidemment ce n'est pas tout, encore une fois, mais on a des indices pour dire qu'il y avait probablement un accès aux ressources identiques, il y avait une mobilité qui devait être identique, les femmes et les hommes devaient pouvoir se mouvoir dans l'espace assez largement. Alors, il y a évidemment des poncifs, il y a évidemment des idées qu'on a dans la tête, parce qu'on les a vues dans les images, parce qu'on les a lues dans des livres de vulgarisation, hein, l'idée que la femme restait au fond de la caverne et puis que l'homme allait chasser. Bon, alors, ce sont des idées qui ont été largement revues, révisées, à travers en particulier l'observation ce qu'on appelle l'ethno-archéologie, hein, l'observation des peuples de chasseurs-cueilleurs aujourd'hui, hein, dont on sait que les choses ne se passent pas du tout comme ça. Hein, les femmes sont très mobiles, elles vont cueillir, elles rapportent une partie importante de la subsistance du groupe, 70%.
Tout ne vient pas de la chasse.
Non seulement tout ne vient pas de la chasse, mais de plus, les femmes aussi participent à la chasse. Alors, avec leurs moyens, en rabattant le gibier, en courant après lui, sans le tuer. Hein. Testard expliquait que verser le sang n'est généralement pas une pratique féminine, parce que les femmes ont un rapport particulier au sang, hein, au sang des règles, au sang de l'accouchement, etc. Mais donc, il y a aussi des rôles féminins dans la chasse. Et de toute façon, quand on parle de la préhistoire plus ancienne, la chasse, la grande chasse, elle commence avec Homo sapiens arrivant il y a 50 000 ans en Europe occidentale. Et il y a des modèles qui nous expliquent que pendant très longtemps, les hominines, par exemple les Homo erectus, les Néandertaliens, etc., vivaient de charognage, hein, ne chassaient pas. Donc, et le charognage, c'est une pratique qui peut être exercée aussi bien par des femmes que par des hommes. Et le charognage s'est prolongé très longtemps dans l'histoire, dans la préhistoire paléolithique.
Alors vous dites qu'au néolithique, ça s'est gâté.
Oui.
Donc à partir de 6000 ans avant Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qui s'est passé qui a gâté la situation, justement?
Ce qui a gâté la situation, c'est que déjà, autour de 10 000 ans avant Jésus-Christ, il y a eu ce réchauffement du climat, il y a eu cette installation sédentaire, hein, le fait que les groupes humains ont cessé d'être des chasseurs-cueilleurs, ont cessé d'être nomades, et se sont installés sur des territoires qui étaient particulièrement propices à l'élevage des animaux, à la culture des plantes, etc. Et donc, se sont créés des groupes avec une beaucoup plus grande promiscuité, avec donc des ressources du stockage, hein, le stockage des biens, et puis avec une demande adressée aux femmes de faire beaucoup d'enfants. Hein. Et de rester au foyer. Hein, elle courait plus la campagne pour cueillir, elle restait au foyer, elle s'occupait des soins domestiques, parfois d'un peu de la terre et des animaux, mais sans avoir cette liberté qu'elles avaient en tant que paléolithiques.
Si est-ce que la séparation des tâches, Claudine Cohen, implique une domination?
cette séparation-là, je pense qu'il y a toujours eu une séparation des tâches. Hein. Je pense que ce qu'on appelle le genre, c'est-à-dire la construction sociale de la différence des sexes, existe depuis très très longtemps. Elle existait au Paléolithique. Il y avait certainement au Paléolithique un partage des tâches qui existait et qui assignait aux femmes certains rôles, même si il y avait aussi des possibilités pour les femmes de changer de rôle. Alors, au néolithique, il est clair que ce partage-là, c'est-à-dire les femmes au foyer, les hommes à l'extérieur, les femmes vacant aux soins du ménage et les hommes vacant aux activités plus politiques, plus liées au savoir, liées à toutes sortes d'autres pratiques qui exigeaient aussi une ouverture sur les autres, une ouverture sur le monde, eh bien, ça a créé effectivement une inégalité et des rapports qui pouvaient se traduire par donc une domination, par un certain nombre d'éléments de subordination qui sont intervenus. Alors je ne dis pas qu'il n'y avait pas, pendant le paléolithique, aussi des éléments de subordination et de contrôle. Il y a une chose dont je parle beaucoup dans mon livre, c'est la reproduction. La reproduction, c'est un phénomène très important pour toute société. La reproduction n'est pas seulement un phénomène biologique, c'est un phénomène social.
Social.
Voilà, la société se reproduit. Or, dans toute société, eh bien, il y a un contrôle qui est prévu, en quelque sorte, ou qui est organisé autour de cette question de la reproduction. Et ce contrôle, il passe par le contrôle des femmes. Alors, au paléolithique, dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs qu'on connaît, on sait que les femmes elles-mêmes peuvent contrôler leur reproduction. Et en particulier par des phénomènes comme l'aménorrhée de lactation, le fait d'allaiter l'enfant longtemps, qui arrête l'ovulation. Bon, ça marche pas à tous les coups, mais ça peut marcher.
Ça peut durer 4 ans.
Ça peut durer 4 ans. Et donc, elles espacent au maximum les naissances, de façon à ne pas être encombrées par des enfants qu'elles portent. Parce qu'elles portent beaucoup de choses dans les sociétés nomades, et elles portent aussi les enfants, et donc on ne peut pas avoir plusieurs enfants en bas âge sur son dos, et arriver comme ça à régler, il y a une espèce de régulation de contrôle. Mais le contrôle pouvait aussi être exercé par les hommes sur les femmes. Alors, il y a toutes sortes de réflexions. Par exemple, Françoise Héritier, qui était une grande anthropologue qui malheureusement nous a quittés il n'y a pas très longtemps, elle explique que les hommes ont besoin de ce contrôle presque psychologiquement, parce qu'ils savent que pour avoir un enfant, et en particulier pour faire un fils, c'est ça qui les intéresse, pour faire un enfant pareil qu'eux, eh bien, ils doivent passer par les femmes. Et donc, c'est cette espèce de tension, presque de rivalité, qui les mène à contrôler la reproduction, la sexualité des femmes, la fidélité des femmes, etc. Et donc, on peut supposer que dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs anciennes, il y avait aussi ce type de contrôle, à la fois par les femmes et aussi par les hommes, de la reproduction. Et ça, c'est une... Disons que c'est un élément très important de la domination masculine.
Alors, Claudine Connen, on ne peut pas discuter de ces questions sans évoquer un moment ou un autre Darwin.
Oui, bien sûr.
Et donc, vous évoquez une anecdote assez plaisante. Quand il rentre de son périple autour du monde à bord du Beagle, il a 29 ans et il se demande s'il doit se marier ou pas. Et il écrit sur une page les avantages du célibat. Il les compare aux inconvénients de la vie d'homme marié. Il fait une sorte de bilan qui va le conduire à la fin à se marier et à faire 10 enfants. Mais parmi les avantages du célibat, voilà ce qu'il dit. Liberté d'aller où on veut, fréquentation choisie et peu nombreuse, conversation avec des hommes intelligents dans les clubs, ne pas être obligé de rendre visite à des parents et de se plier à toutes sortes de futilités. Inconvénient de la vie d'homme marié, peut-être se disputer, perte de temps, impossible de lire le soir, embonpoint et oisiveté, inquiétude et responsabilité, moins d'argent pour les livres, s'il y a beaucoup d'enfants, nécessité de travailler pour les nourrir, j'en passe et des meilleurs. Et pour ce qui est des bienfaits du mariage, voilà ce qu'il écrit, des enfants s'il plaît à Dieu, une compagne constante et une amie dans la vieillesse qui éprouvera de l'intérêt pour moi, Un objet à aimer et avec qui jouer, c'est mieux qu'un chien en tout cas. Une maison et quelqu'un pour s'en occuper. Les charmes de la musique et des bavardages féminins, ce sont des choses bonnes pour la santé, mais aussi une terrible perte de temps. Et puis, à la fin, les arguments en faveur du mariage finissent par l'emporter. Mon Dieu, il est intolérable d'imaginer passer toute sa vie, telle l'abeille stérile, à travailler, travailler et rien d'autre. Non, non, cela ne va pas. Imagine-toi toute la journée seule dans une maison enfumée et sale, ou bien avec une femme douce, sur un canapé avec un bon feu, des livres et de la musique. Compare cette vision avec la réalité miteuse de Great Marlborough Street à Londres. Marie-toi, c'est QFD.
Voilà, c'est une démonstration.
Il y a quand même des préjugés de son époque qui affleurent là.
Ben, c'était un gentleman victorien. Puis là, il sort de son voyage du Beagle, où il a parcouru le monde, il est allé dans les Pampas, il a fait des tas de choses. Bon, il se demande comment il va arriver à poursuivre sa vie en ayant une certaine liberté. Et est-ce que le mariage ne va pas le rendre lui-même dépendant et voilà, lui empêcher une vie comme celle qu'il souhaite. Et puis, il va se marier. Mais alors, il s'intéresse, dans ce texte-là, il ne parle pas du tout de sexualité. Hein, il parle plutôt des avantages sociaux du mariage et psychologiques. Mais il a publié en 1871, soit un peu plus de 10 ans après son grand livre « L'origine des espèces », un livre dont... l'argument central touche à la question de la sexualité.
Ça s'appelle « La descendance de l'homme et la sélection en relation avec la sexualité ».
Voilà. Et c'est formidable de penser que Darwin a eu ce courage à son époque, à cette époque victorienne, vraiment de se pencher sur la question des relations sexuelles et de leur rôle dans l'évolution et dans la société.
Il parle de compétition pour la reproduction.
Exactement.
Alors compétition entre qui et qui ?
Il explique que la sexualité se passe comme un choix, hein, comme une sélection. Hein. C'est une sélection qui dépend des individus. C'est-à-dire que, alors il explique que ce sont souvent les femelles dans les espèces de mammifères, par exemple. Ce sont les femelles, ou les oiseaux, par exemple, ce sont les femelles qui choisissent. Hein. Et c'est comme ça que par ces choix répétés, elles induisent des caractères qui vont se dégager, qui vont s'accentuer chez les
femmes. Donc au début, les statures entre hommes et femmes sont à peu près les mêmes.
Oui.
Et à cause de ces choix, différence qui advient.
Alors, par exemple, pour les oiseaux, ce sont les femelles qui choisissent. Et par exemple, les paons, hein, ils ont un ornement absolument extraordinaire qui leur sert à rien. Quand ils veulent fuir un prédateur, mais qui leur sert à séduire les femelles. Alors, dans les sociétés humaines, dit Darwin, ça a commencé comme ça. C'était les femmes qui choisissaient les hommes qui leur plaisaient. D'ailleurs, c'est pour ça que les hommes ont la barbe, la moustache, un certain nombre de caractères que les femmes n'ont pas. Et puis, elles ont choisi de plus en plus la force qui leur permettait d'être protégées par ces hommes. Et les hommes sont devenus de plus en plus forts et, dit-il, de plus en plus intelligents et de plus en plus capables donc de lutter.
Oui, mais si les hommes deviennent de plus en plus forts, leurs enfants, y compris les filles, devraient devenir elles aussi de plus en plus fortes.
Oui, oui, bien sûr, mais il parle pas de l'intelligence des filles, il parle...
Je parle de la force physique.
Oui, oui, la force physique, elle est quand même... Alors, il explique qu'elle est distribuée, les mâles... enfin, il y a une distribution dans les deux sexes, mais pour lui, ça se perpétue de mâle en mâle, et de femelle en femelle. Et donc, explique-t-il, peu à peu, les hommes ont pris le pouvoir. Les hommes ont pris le pouvoir sur les femmes, et se sont appropriés le pouvoir de choisir. Et il y a un renversement qui n'existe pas dans d'autres espèces animales, qui est propre vraiment à l'humanité, et qui fait que les hommes sont devenus dominants dans les groupes humains. Voilà, c'est son explication.
D'ailleurs, il donne un exemple, les Kalmucks, et on organisait une course entre la fiancée et le fiancé. Le premier, le fiancé, partant avec une certaine avance, et il dit qu'il n'y a pas d'exemple qu'une fille ait été rattrapée à moins qu'elle n'aime l'homme qui la poursuit.
Oui, alors ça, c'est pour montrer que...
L'amour, quand même, joue un rôle.
Oui, mais que les femmes ont un pouvoir. Oui. Il explique que dans les sociétés primitives, dit-il, ce qu'il appelle primitives, eh bien, les femmes ont gardé ce pouvoir de choisir. Alors que dans les sociétés plus élaborées, eh bien, ce sont les hommes qui dominent. Et voilà, donc on est dans le cas de figure qui va se perpétuer avec des hommes forts, des femmes plus, disons, asservies ou dominées, une structure que l'on connaît aussi dans les sociétés plus
tardives. Alors, Claudine Cohen, quels sont les préjugés de son époque que Darwin a utilisé implicitement dans cette sorte d'analyse ?
Bien. Par exemple, le fait que les femmes sont presque des enfants. Les femmes restent, sont. Il dit dans beaucoup de textes, il dit que physiquement les femmes sont entre l'homme et l'enfant. Psychologiquement, elles sont aussi, elles ont des qualités qui de douceur, des capacités d'imitation. Même elles sont proches des animaux, des singes. Hein, elles sont capables d'imiter, mais elles sont pas capables d'inventer. Elles sont pas capables de conceptualiser. Elles sont pas.
Donc le fait qu'elles soient entre l'homme et l'enfant rabaisse leur statut vis-à-vis de l'homme.
Oui, elles n'ont pas un statut aussi élevé que l'homme. Effectivement.
Alors, est-ce qu'il y a des modèles animaux qui permettent d'avancer dans la réponse à la question posée, notamment chez les singes ?
Alors, Darwin a dit « l'homme descend du singe », effectivement. Non seulement il descend du singe, mais l'homme est un singe, l'homme est un primate.
Enfin, il a un ancêtre commun avec les singes.
Avec les grands singes,
c'est
mais...
C'est peut-être la même chose.
Il est un primate. Hein, il fait partie de ce qu'on appelle aujourd'hui d'ailleurs les hominidés. Hein. Les hominidés, c'est une super famille qui comprend les grands singes hein, et puis les humains, les humains préhistoriques et les humains actuels. Et parmi ces hominidés, parmi ces grands singes très proches de nous, qui ont des ancêtres communs, qui ont un ancêtre commun avec nous, il y a les gibbons, les orang-outans, les gorilles, les chimpanzés et les bonobos. Alors, effectivement, dans mon livre, je me pose la question de savoir si ces espèces de singes peuvent jouer le rôle de modèle pour comprendre la domination masculine. Et on connaît, alors maintenant l'éthologie s'est beaucoup développée, l'éthologie des grands singes, c'est-à-dire l'éthologie des singes en général, c'est-à-dire l'étude de leur comportement, et en particulier de leur comportement sexuel. Et on se rend compte qu'en fait, il y a une très grande variété parmi ces différents singes. Hein. Les gibbons vivent en couple, chantent ensemble.
Du côté de Bornéo, ils ont des bras très longs, des jambes très longues, oui. Ils vivent en couple, ils sont fidèles.
Voilà.
Et vous dites que s'ils chantent, c'est pour affirmer leur entente et leur fidélité perpétuée tout au long de leur vie.
Oui.
Comment on peut le savoir, ça ?
Que
ce qu'ils chantent, c'est l'éloge de la fidélité ?
Oui, c'est peut-être une extrapolation.
D'un point de vue technique, comment est-ce qu'on peut savoir ce qu'ils disent quand ils chantent ?
On peut voir qu'ils sont heureux d'être ensemble.
Ça, d'accord, mais ça ne traduit pas leur chant.
Oui, bon, écoutez, peut-être que je m'avance un peu en disant ça, mais souvent, les gens qui ont étudié les gibbons écrivent ça, disent ça. Donc, j'ai repris des choses qui existent. Maintenant, peut-être c'est une extrapolation. En tout cas, il y a cette harmonie, hein, quand on entend deux voix ensemble qui font des vocalises, et puis ensuite qui se déploient, on peut dire qu'il y a quelque chose qui ressemble. Alors, c'est peut-être un peu anthropomorphe, mais voilà. Bon, les gibbons sont fidèles. Les gibbons ne sont pas dominants par rapport aux femelles. Quant aux orang-outans, ils sont assez solitaires. Il y a, au moment des activités sexuelles, il peut y avoir de la domination. Il peut y avoir même, chez les jeunes orang-outans, des viols hein, de femelles. Donc c'est assez variable, mais ce sont des animaux qui ne vivent pas en société.
Ni même en couple.
Ni même en couple. Les gorilles, eux, ils ont un harem. Hein, il y a un mâle, le dos argenté, hein, qui domine plusieurs femelles. Les chimpanzés, ils vivent en troupe, mais ce sont des troupes variables. Ce ne sont pas des troupes qui sont permanentes. Il peut y avoir des individus qui quittent, qui vont ailleurs, etc.
Vous dites que les chimpanzés, ils ont inventé la politique.
Oui, absolument.
Qu'est-ce que ça veut
dire ? Franz de Waal disait qu'ils avaient, ils gèrent non seulement leur groupe, mais aussi leur relation avec les autres groupes, avec beaucoup d'intelligence, de ruse, etc. Simplement, dans les groupes de chimpanzés, il y a une très grande domination des mâles sur les femelles, hein, et parfois même une certaine violence, non seulement entre eux, mais aussi par rapport aux femelles et par rapport aussi aux petits. Hein, quand ils veulent s'approprier une femelle qui a déjà des petits, eh bien, ils tuent les petits.
Hein, mais pour le savoir, il faut les regarder vivants dans leur milieu naturel. On n'apprend rien par les os.
Mais il y a des travaux extraordinaires qui ont été faits sur les mœurs des singes. Il y a vraiment
Quel a été l'apport d'ailleurs dans ce domaine des travaux de Jane Goodall?
Jane Goodall a défait
un certain nombre de préjugés.
Elle a travaillé en particulier sur les babouins en Afrique. Il y avait, je raconte un peu ça dans mon livre, il y avait un anthropologue qui s'appelait Zuckerman qui avait dans les années 30 observé des babouins en captivité. Et il avait dit, et les babouins se sont mis à se déchirer. On a mis des mâles en présence de femelles. Et les babouins ont commencé à s'étriper, à se déchirer. Il y a eu des morts, etc. Et il a dit, voilà, c'est le modèle des relations entre les sexes, et de là que nous venons. Voilà, c'est une façon d'expliquer qu'il y avait une nature chez les singes qui pouvait...
Agressive,
qui était héritée chez l'homme. Il s'est trompé au sens où il a mis peu de femelles avec beaucoup de mâles. Or, on sait que les babouins vivent, ont des harems, il y a très peu de mâles et beaucoup de femelles, et donc c'est évident que dans cette situation-là, ils allaient s'étriper. Alors, Jane Goodall, puisque vous me posez la question, elle a étudié des babouins dans le milieu naturel, et elle s'est aperçue que les choses étaient beaucoup plus harmonieuses que ce qu'avait décrit Zuckerman dans ses situations de captivité et aussi avec ses propres...
D'ailleurs, je me souviens qu'en 2018, le Ig Nobel, vous savez, le Ig Nobel, c'est un faux prix Nobel. Enfin, c'est un prix qui récompense des travaux scientifiques à la loufoquerie plus ou moins assumée. Mmh. Et cette année-là, il a été remis à une équipe internationale qui a démontré que dans les eaux, les chimpanzés imitent les humains à peu près autant que les humains imitent les chimpanzés, ce qui finit par converger.
Oui, c'est amusant. Mais enfin, ce que je veux montrer dans tout ça, c'est que il y a une grande variabilité. Et puis, il y a aussi les bonobos. Alors ça, les bonobos, il y a eu des travaux magnifiques qui ont été faits par Franz de Waal et par d'autres, qui ont montré que les bonobos avaient une sexualité tout à fait particulière. D'ailleurs, ils se servent de leur sexualité aussi pour régler les conflits. Ouais. Ils ont une sexualité hors estrus, hein. On sait que chez les bonobos, les femelles dominent. Il y a pratiquement presque un matriarcat chez les bonobos. Elles dominent. Et pourquoi dominent-elles? Eh bien, parce qu'elles arrivent à créer des alliances entre elles. Et c'est à travers ces alliances entre femelles qu'elles se mettent à s'opposer au mâle et parfois même dans des conflits assez violents. Hein. Il arrive qu'elles leur arrachent les doigts, les testicules, etc. Bon. Et donc, voilà, ce tableau que j'ai rapidement dessiné de toutes ces espèces de grands singes ne nous dit pas du tout...
Il y a trop de diversité pour que ce soit
une explication.
Voilà.
Donc, il ne nous dit pas du tout de quoi nous avons hérité. Je pense que cette idée d'alliance est intéressante. Celle dont j'ai parlé pour finir.
Pour les bonobos.
Pour les bonobos, mais pour d'autres aussi, pour les chimpanzés aussi. On sait que les chimpanzés s'allient entre eux pour dominer un ennemi ou pour dominer une femelle. Et donc, cette idée d'alliance, elle est peut-être intéressante en ce qui concerne aussi les groupes humains. Sans doute, le fait que les mâles s'allient entre eux, ou que les femelles d'ailleurs s'allient entre elles, a pu jouer un rôle dans la structuration de ces groupes.
Alors, si on va voir du côté de Freud,
oui.
Qu'est-ce qu'on trouve de différent de ce que disait Darwin ?
Bien, écoutez, Freud, c'est quelqu'un qui a essayé de penser la nature, justement, de l'homme, et de comprendre la manière dont s'est élaboré notre inconscient. Il écrit, je cite un texte dans lequel il explique qu'il y a de la violence en l'homme. Il dit l'homme n'est pas du tout cet être paisible.
Comme beaucoup d'autres l'avaient dit avant lui, notamment voilà. Blaise Pascal et quelques autres.
Oui, bah, il reprend cette idée d'une espèce de pulsion de domination. Des pulsions de domination, mais on sait que chez Freud, il y a des choses qui limitent les pulsions. Toute sa théorie du surmoi, toute sa théorie de l'interdit, du refoulement, etc., touche à cette question de la pulsion et de sa limite. Donc j'ai commencé le chapitre avec ça, pour justement réfléchir à ce que c'était que l'instinct et ce que c'était que la limite. Or, quand on pense les sociétés humaines, je crois qu'il faut pas les penser comme régies par l'instinct, hein, mais il faut les penser comme régies par un certain nombre de règles, de normes, de lois que les humains se donnent. Alors, je donne un petit peu une généalogie de ça, à travers le fait que, chez les humains, la sexualité est permanente. La sexualité est permanente parce que nous n'avons pas ces phénomènes de rut, ces phénomènes d'estrus, qui rythment la sexualité des grands singes, par exemple, et des autres mammifères. Et donc, c'est un trait extrêmement important, c'est un trait fondamental qui constitue autrement les relations entre les sexes. La sexualité est possible à tout moment. Alors, ça a plusieurs conséquences. Ça peut être l'ouverture à une espèce de débordement et de sexualité qui vraiment est incontrôlable et qui a besoin d'être limitée, hein, par un certain nombre de règles. Et c'est peut-être là l'origine des règles même que les humains se sont données, hein, les règles de parenté. On sait que les ethnologues comme Lévi-Strauss nous expliquent que les règles les plus fondamentales des sociétés humaines sont les règles qui régissent la sexualité, hein, qui régissent la parenté, qui régissent par exemple l'interdit de l'inceste et la nécessité aussi d'aller chercher ailleurs que dans le groupe
l'exogamie.
Voilà, ce qu'on appelle l'exogamie, une partenaire. Donc tout ça, c'est extrêmement important. Alors, le fait que la sexualité est permanente joue aussi un rôle dans la constitution de la famille, dans la constitution de rapports permanents, hein, rapports permanents entre les hommes et les femmes, mais aussi rapports permanents autour de l'enfant.
Hein. Mais justement, est-ce qu'on est capable de dater l'apparition de la notion de famille ?
Je pense qu'elle est aussi ancienne que l'humanité. Alors, je m'avance pas beaucoup en disant ça, parce que bon, l'humanité, c'est à différents stades, si vous voulez, qu'on peut la percevoir. La famille humaine, elle commence il y a 7 millions d'années, hein, avec les premiers hominines, avec ceux dont on sait qu'ils sont bipèdes, et la bipédie est très importante dans cette affaire-là. Et joue d'ailleurs certainement un rôle important dans la perte des signes visibles et olfactifs de l'œstrus, hein, puisque c'est sans doute la bipédie qui a limité cette attraction à travers les phénomènes visibles de la coloration de la vulve ou encore les odeurs émises par les sexes féminins. Donc, la perte des signes de l'œstrus, elle est liée à la bipédie, à l'acquisition de la bipédie, qui elle-même est aussi ancienne que l'origine de la famille humaine il y a 7 millions d'années. Alors, je ne pourrais pas vous dater exactement la convergence des deux, c'est-à-dire la perte des signes de l'œstrus et les débuts de l'organisation des groupes humains, mais elle est certainement quelque part entre 7 millions d'années et 2 millions d'années, c'est-à-dire l'origine du genre, enfin d'Homo erectus, même plus tôt, l'origine du genre Homo, c'est 2,5 millions à peu près aujourd'hui.
Claudine Cohen, vous parlez de Freud, là, il a rédigé un opuscule en 1912 intitulé « Du rabaissement généralisé de la vie amoureuse ».
Oui.
Étrange titre.
Oui,
qu'est-ce qu'il explique ? La femme est une sorte d'homme déficient, c'est ça ?
Oui, tout. Il explique d'abord, son idée à lui, c'est que la femme, il lui manque quelque chose. Hein, il lui manque un pénis, dit-il, elle a envie du pénis. Ça, c'est dans d'autres textes qu'il écrit ça. J'ai expliqué tout à l'heure que peut-être que les hommes aussi ont un manque, hein, puisqu'ils n'ont pas la possibilité d'avoir des enfants. Hein, donc c'est peut-être aussi un point qu'il faut considérer. Mais quand il parle du rabaissement de la vie amoureuse, il parle du rabaissement imaginaire dans la sexualité masculine, souvent du désir de rabaisser la femme pour entretenir une relation avec elle, une relation amoureuse, une relation sexuelle. Et il explique que souvent, les hommes ont une femme avec laquelle ils ont des rapports dignes et sociaux bien construits, et puis une maîtresse avec laquelle ils vivent des rapports amoureux plus ou moins fantasmés ou plus ou moins réels, des rapports sexuels qui sont d'un tout autre ordre. Donc le besoin masculin de rabaisser les femmes dans la sexualité est quelque chose qui apparemment s'observe dans la psychologie masculine.
Qu'est-ce que vous pensez, Claudine Cohen, de la thèse défendue par certains anthropologues selon laquelle l'infériorité de l'enfant aurait déteint sur le statut de la femme qui en a la charge?
Oui, alors, Bernard Lahire, qui est un sociologue aujourd'hui, qui a publié des livres importants, met l'accent très fort sur cette affaire-là, d'abord sur l'enfant. Hein, il appelle ça l'altricialité secondaire, le fait que l'enfant humain n'est pas fini, inachevé. Ça aussi, c'est une conséquence de la bipédie, hein, parce que le bassin rétrécit, le crâne est plus gros et l'enfant ne peut pas sortir tout achevé du ventre de sa mère. Et donc, il doit sortir pas fini, inachevé, et finir sa croissance à l'extérieur. Et donc, il a besoin de beaucoup de soins.
Hein,
il
est complètement... Mais qu'un père peut donner également. Pourquoi est-ce que ce rôle est plutôt attribué à la femme, à la mère qu'au père ?
Alors, dans la démonstration de Lahire, il explique, et c'est un peu emprunté à la sociobiologie, hein, à savoir les femmes donc protègent leur gamète, puis leur fœtus, puis l'enfant. Le rôle de la femme, c'est celui, le rôle naturel de la femme, c'est celui de s'occuper des enfants. Alors, on peut discuter de cela. Il y a des choses très très intéressantes sur le rôle des pères. J'ai fait tout un chapitre à la fin de mon livre sur qu'est-ce qu'un père et sur justement de nouveaux regards sur la paternité. Mais en tout cas, chez Bernard Lahire, il décide que la femme est inférieure parce que elle est proche de l'enfant. Et c'est comme si elle était infantilisée. Alors je trouve que c'est une explication un petit peu courte. Je pense d'une part que le fait de s'occuper de l'enfant n'est pas forcément infantilisant, et d'autre part, la famille humaine se caractérise comme famille élargie, comme une famille qui n'est pas le triangle papa, maman et l'enfant, comme on voit dans nos sociétés, mais pendant très longtemps et dans beaucoup d'autres sociétés, eh bien, on a non seulement le couple, les enfants, mais aussi les cousins, les tantes, les grands-mères, les grands-pères, etc., la famille élargie. Et donc la famille élargie peut aussi s'occuper de l'enfant. En ce qui concerne la paternité, alors, il y a beaucoup de choses à dire sur la paternité. Je pense que c'est un point tout à fait central dans la réflexion sur la domination masculine. Il y a un livre de Sarah Hardy qui vient de paraître, que j'ai lu en anglais et qui est paru en français aujourd'hui, qui s'intitule « Father's Time », le temps du père. Et alors, Sarah Hardy explique, elle l'avait dit d'ailleurs dans des livres précédents, qu'il y a des phénomènes hormonaux, et ça on le sait, une femme qui accouche, qui allaite, produit de l'ocytocine qui la rend très proche de son enfant et très sentimentalement attachée à son enfant. Et c'est cela qui crée ce lien, ce lien très fort entre la mère et l'enfant. Et dans son dernier livre, elle explique qu'on s'est rendu compte, parce que les pères aujourd'hui sont plus proches de leurs enfants, parce qu'ils essayent de les élever, de les materner, comme on veut dire, eh bien, on s'est rendu compte qu'il y avait de la production d'ocytocine aussi chez les hommes. Il y avait aussi des phénomènes hormonaux qui géraient leur proximité vis-à-vis de l'enfant.
Donc les hommes se féminisent en devenant
pères ? Non, ce n'est pas qu'ils se féminisent, c'est qu'ils deviennent ce qu'ils sont, c'est-à-dire que des choses qui sont virtuelles en eux se réalisent et leur permettent d'exercer ce rôle.
Mais comment étaient, par exemple, les sépultures à l'époque du néolithique ? Est-ce que les femmes avaient les mêmes tombes, les mêmes sépultures que les hommes ? Ou est-ce qu'il y avait une différence qui marquait leur statut social ?
Alors, les sépultures, c'est un domaine très très intéressant. Et d'ailleurs, pour tout ce qui est archéologie, préhistoire, c'est un des objets les plus... disons que l'on étudie le plus, parce qu'on a des squelettes souvent assez bien conservés. Alors, pour le paléolithique, il y a effectivement des sépultures intéressantes parce qu'elles ont permis de reconnaître des corps féminins qui n'étaient pas du tout des corps graciles, comme on pourrait l'imaginer, mais au contraire des personnalités robustes et en plus parées, enfin qui avaient certainement un rôle.
Mais toutes les femmes n'avaient pas le même statut. Il y avait, j'imagine, des reines, une hiérarchie dans le monde
féminin. Au paléolithique, justement, ce qu'on a dit du paléolithique, c'est-à-dire les périodes les plus anciennes de la préhistoire humaine, il y avait probablement peu de hiérarchie. C'était des sociétés relativement égalitaires. Mais les femmes étaient aussi robustes que les hommes. Et elles avaient des sépultures où elles étaient parées de la même façon que des hommes pouvaient l'être. Au néolithique, alors c'est d'autres formes de sépultures. Ce sont des sépultures collectives. Ce ne sont plus des sépultures individuelles et rares comme elles le sont au paléolithique. Mais à partir du moment où on devient sédentaire, eh bien, on enterre ses morts dans l'endroit, à proximité de l'endroit où on vit. Et il y a toute une... on connaît des cimetières très importants, néolithiques, qui permettent d'étudier beaucoup plus finement les relations entre les hommes et les femmes, qui permettent d'extraire de l'ADN pour voir quelles étaient les filiations, les rapports de parenté, etc. dans ces groupes, et qui permettent aussi d'étudier effectivement le traitement des hommes et des femmes dans ces groupes néolithiques. Il y a eu des études très, très fines qui ont été faites, en particulier au Rubanais d'Europe centrale, et on a pu observer des sépultures qui étaient centrées sur des hommes, avec des femmes qui étaient périphériques, des hommes qui étaient armés, qui avaient donc visiblement un pouvoir aussi lié à la possession de certains objets, et des femmes qui souvent étaient enterrées de façon beaucoup plus modeste, avec quelques outils ou quelques objets assez simples.
Et quel rôle a joué l'exogamie dont on parlait tout à l'heure, dans le fait d'aller chercher des partenaires dans d'autres groupes? Est-ce que c'est un phénomène important? Comment est-ce qu'on a pu en avoir la preuve que cette pratique a bien eu lieu dans le passé? Et qu'est-ce qui l'explique du point de vue, disons, darwinien ou freudien ou autre?
L'exogamie, encore une fois, n'est pas un phénomène naturel, c'est un phénomène social. C'est un phénomène social qui est lié à l'interdit de l'inceste, qui est certainement un interdit très fondamental dans les sociétés humaines.
Le fait de ne pas... c'est un interdit de quelle nature? C'est quelque chose qui s'impose d'emblée?
Alors, il y a des discussions autour de ça. Il y a des gens qui disent que c'est un instinct, que l'évitement de l'inceste est un instinct.
Donc, c'est pas la peine de l'interdire.
Voilà, c'est ça la démonstration. Maintenant, il y a des gens comme Lévi-Strauss qui dit que l'interdit de l'inceste est le fondement même de toute culture. Et voilà, c'est le passage à la culture humaine. Et donc, cet interdit de l'inceste, il régit des pratiques qui sont des pratiques d'exogamie, c'est-à-dire d'aller chercher ailleurs que dans son groupe une épouse. Ce sont les hommes qui vont chercher les femmes pour les épouser. Alors ça peut être des rapts, ça peut être des phénomènes assez violents, comme on a pu l'imaginer et comme ça peut se passer, mais ça peut être aussi des échanges, des modalités d'échange où la femme est une sorte d'objet d'échange entre deux groupes, et d'échanges parfois réciproques, et qui créent donc ces liens entre les groupes et qui amènent une femme étrangère dans un groupe qui possède ses propres alliances, qui possède ses propres règles, et où elle va se trouver une pièce rapportée, en quelque sorte. Elle va se trouver isolée de sa famille, isolée de son groupe, et amenée dans un lieu où il y a déjà des alliances. On parlait des alliances en commençant, et c'est peut-être une des modalités de la possibilité d'une domination sur les femmes.
Donc il y a un lien direct ou indirect entre l'exogamie et la domination masculine.
Oui, bien sûr, bien sûr. Ben, c'est ce que dit Lévi-Strauss, c'est ce que dit Françoise Héritier, c'est ce que disent beaucoup d'anthropologues.
Venons-en, Claudine Cohen, aux amulettes qu'on trouve ici et là. Que nous disent-elles de la question posée?
Alors, les amulettes, il faut voir à quelle époque on les trouve. Moi, j'ai parlé des amulettes surtout en ce qui concerne le paléolithique. Et au paléolithique, effectivement, on trouve beaucoup de représentations féminines. Des représentations assez stéréotypées, souvent, des femmes avec un gros ventre, avec une vulve absolument démesurée, avec des seins énormes, et ce sont des toutes petites statuettes, mais il y a ces proportions qui sont chaque fois répétées. On trouve aussi beaucoup de dessins de vulves féminines, par exemple sur les parois des grottes paléolithiques, et donc on peut s'interroger sur leur sens, sur leur fonction. Bon, une des choses qu'on peut observer, c'est que beaucoup sont enceintes. Beaucoup ont l'air de femmes enceintes. Et on peut donc imaginer que ce sont des objets qui... alors, on a dit que c'était des objets magiques pour la fertilité, la fécondité. Bon, quand on sait que les sociétés paléolithiques ne cherchaient pas trop la fécondité, mais espacer les naissances de 4 ans, eh bien, c'est une explication un peu courte, encore une fois. Alors, peut-être que ces amulettes avaient pour objet de protéger les femmes à ce moment difficile de leur vie de femme, qui est la grossesse et l'accouchement. Hein, c'est possible. Et on a toutes des séries, presque des objets faits en série, hein, les amulettes de Grimaldi, celles qu'on a trouvées près d'Amiens, à Renancourt, qui sont pratiquement faites en série. On peut se demander d'ailleurs qui les a fabriquées. Est-ce que ce sont les hommes qui fabriquaient des amulettes pour les femmes, ou est-ce que les femmes fabriquaient des amulettes pour elles-mêmes?
Il y a un autre phénomène passionnant dont vous parlez dans votre livre, Claudine Cohen, c'est ce que vous appelez l'anamorphose du sexe. On a trouvé certaines statues qui, selon l'angle sous lequel on les regarde, apparaissent tantôt masculines, tantôt féminines. Tantôt on voit une femme enceinte, par exemple, tantôt on voit un phallus. Oui. J'imagine que c'est pas un hasard, c'est délibéré.
Ah ben non, c'est
et qu'est-ce que ça dit ? Qu'est-ce que ça dit de ceux qui les ont sculptés ?
Écoutez, c'est quelque chose que j'ai observé. En regardant beaucoup ces statuettes, ça fait longtemps que je travaille. Hein,
c'est quantique.
Oui, ça fait longtemps que je travaille sur la question de la représentation féminine dans la préhistoire. Et il m'est apparu un jour qu'il y avait une grande quantité de ces statuettes qui ont toujours été célébrées comme des statuettes féminines, qui, lorsqu'on les regardait un petit peu sous un autre angle, comme une anamorphose, vous savez, les échères qui dessinent des poissons, et puis tout d'un coup, au lieu d'un poisson, on voit un oiseau. Hein. Et bien là, au lieu d'un corps de femme, et bien on voit un phallus dressé, avec tous ces éléments, avec les testicules, etc. Par exemple, la Vénus de Cireuil, dont je donne la reproduction dans mon livre.
Il y en a plusieurs
livre,
dans votre livre, oui.
Et bien, elle est saisissante à cet égard. De profil, c'est une jeune fille, avec des petits seins, cambrés, etc. Et puis, quand on la retourne, eh bien, on voit ce phallus dressé. Voilà. Et il y en a des dizaines. Il y en a des dizaines. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ?
Quel est le message ?
Écoutez, le message, c'est qu'il y a un rapport entre les hommes et les femmes, qui est un rapport de grande proximité, peut-être même d'interpénétration. Alors, ce n'est pas un rapport sexuel, parce qu'il n'y a pas de coït hein, dans les figurations paléolithiques. Il n'y a pas de représentation de l'acte sexuel, ou très peu. Il y en a une qui est d'ailleurs, qui reste discutée, la fameuse plaquette dans l'aine. Pour cela, eh bien, alors, est-ce que ça parle de l'androgyne ? Est-ce que ça parle d'un rapport très, très intime entre les hommes et les femmes ? Je ne sais pas. Mais ça nous dit quelque chose sur une façon de voir les rapports entre les sexes à cette époque-là du paléolithique, qui n'est certainement pas la nôtre. Hein. Non pas dans la dualité, mais dans l'unité.
Alors venons-en à la période critique, l'âge de bronze, dont vous dites que c'est la naissance du patriarcat, qu'on explique en partie par l'invention de l'écriture et l'apparition des métaux.
Oui.
Là, j'avoue que quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais comment est-ce que ça peut être lié ?
Alors, l'apparition du patriarcat, je dirais plutôt l'institutionnalisation du patriarcat. C'est-à-dire que la domination masculine, comme je l'ai expliqué, c'est vraiment au néolithique qu'elle s'accroît, qu'elle s'accentue.
Alors, qu'est-ce qu'on appelle le patriarcat ? Alors, et qu'est-ce qui le distingue de la domination masculine ?
Alors, je ne dis pas que ça se distingue, je dis que ça s'institutionnalise. Ça veut dire que ça s'écrit. Ça veut dire que ça s'inscrit dans les lois, ça s'inscrit dans les règles sociales. Ce sont des cités-États qui naissent en Mésopotamie à l'âge du bronze. Des cités-États qui ont des princes, qui sont aussi détenteurs d'un pouvoir religieux, qui ont une hiérarchie beaucoup plus forte que les sociétés qu'on a connues avant, et qui donc instituent un certain nombre de règles écrites. Et c'est à travers ces règles écrites, dont on connaît des vestiges, hein, qu'on peut voir que les femmes, à ce moment-là, sont vraiment institutionnellement dominées.
C'est-à-dire alors ça, je comprends. Mais les métaux ?
Alors les métaux, c'est la naissance de la valeur du guerrier, hein, de la valeur virile, masculine, qui domine aussi ces groupes sociaux. Et la valeur de l'État qui détermine le comportement des uns et des autres. Et on voit en particulier que les hommes s'approprient ou s'arrogent le droit de vie et de mort sur les femmes, le droit de domination non seulement sur les femmes, mais aussi sur la famille. Ce sont des valeurs viriles, patriarcales, qui s'instituent et qui vont se prolonger par exemple, dans les religions du livre. Hein, c'est aussi, la Mésopotamie est aussi la source de la religion du livre et du peuple juif qui est parti de Mésopotamie et qui a donc repris un certain nombre de ces cadres patriarcaux. Les religions du livre, que ce soit le judaïsme, le christianisme et l'islam, sont des religions patriarcales. Il faut lire les textes dans lesquels on explique que l'homme a un droit, un pouvoir sur les femmes, que les femmes doivent obéir.
Mais est-ce que dans votre domaine de recherche, Claudine Cohen, vous voyez une domination masculine dans la science, dans la façon de la dire, de la mener, des mécanismes de pouvoir au sein des institutions? Est-ce qu'il n'y a pas là des changements radicaux qui sont produits?
Oui, bien sûr, il y a des changements radicaux qui sont produits, mais vous savez, les préjugés qui s'inscrivent dans les sciences elles-mêmes, hein, et en particulier les préjugés qui concernent les relations entre les hommes et les femmes, par exemple, même dans la préhistoire, hein, ils sont très fortement enracinés. Et c'est vrai que depuis quelque temps, les choses commencent à bouger. C'est vrai que voilà, il y a eu beaucoup de travaux. Moi, j'ai publié un livre en 2003 sur la femme des origines qui a un petit peu ouvert ce genre de questions en France. Elles étaient déjà ouvertes aux États-Unis depuis plusieurs décennies. Et depuis, il y a tout un ensemble de recherches, d'ailleurs, qui aussi traduit une présence accrue des femmes dans ces domaines. Hein, parce que les sciences de la préhistoire étaient pendant longtemps exercé par des hommes, c'était vraiment une science mâle.
Il y a une certaine autorité.
Non seulement ça, mais qu'il y avait la barbe, qu'il y avait le rapport au terrain, et les femmes, elles restaient à la maison. Alors aujourd'hui, ça a changé. Il y a des femmes de terrain, il y a des jeunes filles des jeunes femmes qui sont tout à fait compétentes en préhistoire et qui ont changé un peu la donne dans le
domaine. Pour conclure, j'ai une anagramme à vous proposer. Quel est l'anagramme de la parité en sciences? C'est incite à l'espérance.
C'est magnifique.
Voilà, le temps a passé. C'est malheureusement le moment de conclure. Je vous remercie beaucoup, Claudine Cohen, de nous avoir éclairé sur cette question qui reste d'actualité. Je recommande la lecture de votre livre intitulé « Aux origines de la domination masculine » qui vient de paraître aux éditions Passé Composé. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein avec la collaboration de Thierry Beauchamp, une émission réalisée et mise en onde par Souad Boukorsa.